総番さん。
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Des versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelque moment qu'ils reviennent des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. Nous avons un trésor dans les cieux. Et le trésor de nos âmes, c'est Jésus-Christ qui est dans le ciel. Est-ce que nous réalisons que c'est Christ qui est notre trésor dans le ciel, qui est ressuscité et à la droite de Dieu ? Le sujet de ces quelques versets ne sont pas à proprement parler la doctrine de la venue du Seigneur. Mais ces versets nous disent que nous devons l'attendre, et l'attendre continuellement, l'attendre constamment. Si nous réalisons que notre seul trésor, le trésor de nos cœurs, c'est Jésus-Christ, eh bien, nous réalisons que nous l'attendons et nos affections sont réveillées en pensant qu'il va venir chercher son Église. Le Seigneur nous dit que nous devons l'attendre, mais avec un cœur en ordre, sans distraction, continuellement. Et dans ces paroles, nous pouvons trouver quatre enseignements précieux. Le premier enseignement, le Seigneur nous dit que vos reins soient sains. La ceinture, dans la parole de Dieu, nous parle d'activité, nous parle de service. C'est-à-dire que ce n'est pas une attente passive, une attente dans la paresse, mais que dans cette attente, ayant nos cœurs toujours tournés vers le ciel pour l'attendre, eh bien, les croyants, les croyantes, nous devons être des chrétiens actifs et de vrais serviteurs. La ceinture parle d'activité, nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, en particulier dans Jean 13, au verset 4. Le chapitre 13 nous parle du lavage des pieds qui a été réalisé par le Seigneur Jésus. Et au verset 4, nous voyons qu'il se lève du souper et met de côté ses vêtements et, ayant pris un linge, il s'en ceignit. Dans Jean 13, nous voyons le parfait serviteur, Jésus-Christ, qui se ceint pour effectuer son office du lavage des pieds à ses disciples. Attendre le Seigneur, c'est une attente active et non pas passive. Et pouvons voir en particulier quelques passages qui concernent avoir les reins sains, c'est-à-dire que le serviteur n'avait pas des vêtements qui flottaient, mais au contraire, il avait une ceinture qui tenait bien ses vêtements. En particulier, on peut lire dans l'Exode, au chapitre 12, verset 11, « Et vous le mangerez ainsi, donc c'est la Pâque dont il s'agit, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. » Donc après le passage de la mer Rouge, le peuple d'Israël, au moment de la Pâque, eh bien, devait avoir les reins sains. Dans l'Exode au chapitre 28, au verset 4, nous voyons que les sacrificateurs portaient une ceinture, verset 4, Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront, un pectoral et un éphod et une robe et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Première fonction, nous sommes des sacrificateurs, nous l'avons évoqué ce matin pendant la réunion de culte. Eh bien, ces sacrificateurs, nous voyons qu'ils devaient porter dans l'Ancien Testament une ceinture. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, au verset 46, à propos d'Élie le Tisbite, donc un serviteur, un prophète de l'Éternel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il saignit ses reins et courut devant Achab, jusque là où tu arrives à Jizréel. Nous voyons là que différentes activités où les reins devaient être sains, porter une ceinture, c'est-à-dire dans la marche au désert, les Israélites, en particulier au moment de la Pâque, portaient donc une ceinture, ils avaient les reins sains. Comme sacrificateurs aussi dans l'Ancien Testament, nous voyons que la famille d'Aaron, dans son office devant l'Éternel, devait porter aussi une ceinture. Donc, dans cette activité particulière, les reins étaient sains. Comme serviteur de Dieu, Élie, le Tisbite, le prophète, donc, portait aussi une ceinture. C'est-à-dire que, en attendant le Seigneur qui vient du ciel, nous sommes des serviteurs qui doivent avoir les reins sains. Et une autre explication que nous pouvons trouver, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, à la fin du verset 13, l'apôtre Paul, verset 14, début du verset 14, « Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité. » Les reins, dans la parole de Dieu, nous parlent de ce qui est profond dans l'homme. Les reins nous parlent de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur doit être mis en règle par la vérité. Notre connaissance de la parole de Dieu, de la vérité, doit avoir son plein effet dans nos vies, dans notre cœur, dans notre conscience, afin que notre homme intérieur soit en règle devant Dieu. Et quand le Seigneur nous dit que vos reins soient saints, de cette ceinture, c'est-à-dire que nous devons être dans un tel état que nous n'avons rien sur notre cœur et sur notre conscience qui doit être réglé au moment de sa venue. Il faut que nous soyons dans un état convenable pour attendre sa venue. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les lampes allumées, nous devons avoir des lampes allumées. Les deux significations sont la lampe donne de la lumière, bien sûr, c'est-à-dire que nous devons avoir la connaissance de la pensée de Dieu. Éventuellement, nous pouvons, cette connaissance, en faire part à d'autres, à nos frères et à nos sœurs dans la foi, mais aussi nous devons être des luminaires, des témoins devant Dieu, des témoins véritables qui portent ces caractères que le Seigneur approuve. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que notre attente ne soit pas une attente passive, mais que notre attente du Seigneur qui vient nous chercher soit une attente active pour lui. Être des serviteurs approuvés par le Maître. Être aussi, avoir ces lampes allumées, être de véritables témoins de Christ, portant ses caractères. Et est-ce que notre marche reflète les caractères de Christ? Est-ce que nous sommes porteurs de toutes ces perfections morales que le Seigneur a manifestées sur cette terre? D'humilité, d'amour, de patience, tout ce fruit de l'esprit que nous trouvons dans les Galates au chapitre 5. Le troisième caractère que le Seigneur nous demande de porter, c'est d'être semblable à des hommes qui attendent leur maître à quelque moment qu'ils reviennent des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Le Seigneur donne cet exemple du maître qui revient des noces. Curieusement, dans cet enseignement, on ne voit pas quand c'est que commencent ces noces. On ne sait pas quand elles vont se terminer. Est-ce qu'elles vont durer un jour, deux jours? Autrefois, dans le Moyen-Orient, les noces duraient quelques jours. Mais par cela, nous voyons que nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur va venir nous chercher. Et donc le Seigneur, il nous demande de l'attendre continuellement, sans distraction, en ayant notre cœur en ordre. Quelles sont les conséquences pratiques quand nous attendons véritablement le Seigneur Jésus? Les conséquences pratiques, c'est que nous nous détachons de ce monde dans lequel nous sommes et dont nous n'appartenons plus. La deuxième conséquence, c'est que nous devons nous purifier de ce monde, être conservés purs de ce monde, ne pas avoir cette séparation de tout ce qui est mal et de tout ce qui est mondain. La troisième conséquence, c'est d'être rempli de zèle pour le Seigneur Jésus. Et en même temps, il y a une quatrième conséquence, c'est que le Seigneur emploie ce mot de bienheureux. Ceux qui attendent le Seigneur Jésus, je crois que c'est dit à deux reprises, ce sont des bienheureux. C'est-à-dire que dans cette attente, nous devons nous réjouir en lui. Nos affections tournées vers le ciel, d'où il va descendre, et avoir cette pensée de sa venue, et donc que nos cœurs soient réjouis de cette venue qui est proche. Un quatrième enseignement, c'est, il nous est dit que ce jour va être comme une venue comme un voleur. Expression qui a été employée tout à l'heure dans la prière. Il nous est parlé dans le Nouveau Testament du jour du Seigneur aussi, à deux ou trois reprises, et qui va venir comme un voleur, c'est-à-dire un moment imprévisible. Et le retour du Seigneur, s'il est proche, et il est proche, ce moment est imprévisible. Et il y a une expression qui nous est dit à la fin du verset 36, « Quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. » Si j'ai quelque chose sur la conscience, si j'ai quelque chose sur le cœur, j'ai, en lisant de tels passages, tout de suite, j'ai une retenue. C'est-à-dire, est-ce que je vais lui ouvrir aussitôt ou est-ce que je dois me mettre en ordre? Est-ce que mon cœur va être en ordre quand il va se présenter? Si je lui ouvre aussitôt, c'est que mon cœur était en ordre. Et nous avons besoin, pour attendre le Seigneur, d'avoir conscience que nos cœurs et nos consciences doivent être en ordre. Les frères, en commentant ces passages, ont dit que les disciples qui attendent le Seigneur, eh bien, ils l'aiment, ils l'attendent et ils lui ouvrent aussitôt. Les trois caractères au fond de ce passage, de ces quelques versets, c'est que est-ce que Christ est mon trésor dans le ciel que j'attends continuellement? Et s'il est ce trésor, est-ce que mon cœur l'aime? Et si mon cœur l'aime, si mes affections sont tournées vers lui, eh bien, je l'attends. Je l'aime, je l'attends, et si mon cœur est en ordre, eh bien, je lui ouvre aussitôt. Et alors, il y a quelque chose de très précieux qui nous est dit au verset 37. En vérité, je vous dis donc qu'il se scindra et les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit que quand il nous amènera dans la maison de son Père, eh bien, il nous fera asseoir dans cette maison comme des hôtes, et pour toujours. Et le Seigneur nous fait comprendre, et il y a d'autres passages dans les évangiles, que dans le ciel, il nous servira. Et c'est-à-dire qu'il nous comblera de toute bénédiction. Et toutes ces bénédictions, elles seront reçues de sa propre main. Il nous servira. Et nous pouvons déjà à l'avance réaliser que ces bénédictions sont si précieuses pour nos cœurs. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Mais dans le ciel, le Seigneur, il se scindra et il nous est dit qu'il nous fera mettre à table et s'avançant, il les servira. Quelle chose extraordinaire et précieuse pour nos cœurs de savoir que dans la maison de son Père, eh bien, toutes ces bénédictions qui ont été acquises par lui, pour nous, eh bien, elles seront reçues de sa propre main et pour toujours. que nos reins soient sains, que nos lampes soient allumées, que nous soyons semblables à des hommes qui attendent leur maître.
Dans le passage que Michel nous a lu, il y a un mot qui mérite une attention particulière parce que c'est quelque chose que nous avons... Parce que c'est quelque chose qui nous est difficile. Au verset 37, il nous est dit au milieu, quand il viendra, il les trouvera veillants. Ce mot de veiller. Il y a ces conditions que Michel a évoquées, les reins sains, les lampes allumées, le fait d'attendre. Et le temps passe et la vigilance baisse. C'est pas que les reins ne soient pas sains, mais la ceinture se desserre. Doucement, on ne le remarque pas. Les lampes allumées, pensons à la parabole des vierges, des 10 vierges, ben l'huile se consomme. Il faut avoir de l'huile pour réalimenter la lampe. Attendre, veiller en attendant, c'est quelque chose de dans la durée qui demande, on va vous lire un autre passage qui parle de un petit peu de pas strictement les mêmes circonstances là. Dans notre paragraphe que nous venons de lire, c'est littéralement la venue du Maître, du Seigneur pour les siens. En Marc 13, ce retour du Seigneur est présenté d'une manière plus générale par rapport à l'ensemble des événements qui arriveront à ce moment-là. Marc 13, verset 32. Mais quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à midi, ou au chant du coq ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je dis à tous, veillez. Dans ces paroles du Seigneur-là, à cette occasion, on a une insistance toute particulière sur ce mot de veiller. Qui revient, j'ai pas compté combien de fois, mais on peut compter, qui est repris tout au long comme le fil conducteur de ce passage. C'est pas les conditions dans lesquelles nous devons être intérieurement, mais c'est cet encouragement, cette exhortation à tenir ce que le Seigneur nous a donné, cette promesse en particulier. Et alors, verset 38 au début, il nous dit: prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Prenez garde. C'est à la fois une vigilance sur ce qui est tout autour de nous, si on peut dire. Prenez garde, ça peut faire penser à la sentinelle. La sentinelle qui est sur la muraille, elle doit regarder à droite, à gauche, devant, auprès, au loin. Il y a une attention sur tout ce qui se passe autour de nous. Veiller, ben, le contraire de veiller, c'est dormir. C'est ce que le Seigneur dit à la fin du paragraphe, verset 36. De peur qu'arrivant, tout à coup, il ne vous trouve dormant. Dormir ou veiller. Et nous connaissons tout cela dans bien des occasions où nous avons bien l'intention de veiller, nous avons bien l'intention d'être attentifs, que ce soit l'élève à l'école, l'étudiant dans ses cours, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie privée, que ce soit quand on conduit la voiture, toutes sortes de circonstances de notre vie, où la vigilance est soit une nécessité vitale, soit quelque chose de tout à fait à sa place, et puis, un moment, on se laisse surprendre. Les pensées vont ailleurs, les yeux se ferment, et puis on sursaute, et on émerge, et on se rend compte que, voilà, un temps qu'on ne peut pas dire, est-ce que c'était une demi-seconde, est-ce que c'était 20 secondes, est-ce que c'était des minutes, on s'est endormi. Prenez garde, veillez, et priez. Le Seigneur nous donne le moyen de veiller, la ressource de veiller, prier. Dans la conscience de notre faiblesse, dans la conscience de notre incapacité à tenir, nous avons besoin de nous tenir au pied du Seigneur, lui apportant toutes choses, lui demandant, comptant sur lui, sur son secours, pour justement veiller. Alors je voudrais prendre juste une illustration très concrète dans le livre des Nombres, au chapitre 9, où il nous est décrit le camp, dans les chapitres précédents, le camp d'Israël au désert, au début du désert, et où on a donc au milieu du camp le tabernacle qui a été monté, avec la tente au milieu, le parvis autour. Et puis, Nombre 9, verset 15, « Le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle de la tente du témoignage, et elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement, la nuée couvrait, et la nuée, elle avait l'apparence du feu. » Et selon que la nuée se levait de dessus la tente, après cela, les fils d'Israël partaient, et au lieu où la nuée demeurait, là, les fils d'Israël campaient. Au commandement d'Éternel, les fils d'Israël partaient, au commandement d'Éternel, ils campaient. Pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la nuée fût sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement d'Éternel, et au commandement d'Éternel ils partaient. Et s'il arrivait que la nuée y fût depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se leva au matin, alors ils partaient. Ou si après un jour et une nuit la nuée se levait, ils partaient. Ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant 2 jours, ou 1 mois, ou beaucoup de jours, sur le tabernacle pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas, mais quand elle se levait, ils partaient. Si on s'imagine ce campement avec un rythme de vie de tous les jours, des nécessités de la vie, des activités, et puis cette nuée au milieu du campement, sur le tabernacle. Ce qui ressort de ce qu'on vient de lire, c'est qu'il n'y avait pas une règle indiquée par l'Éternel au peuple. Voilà, nous allons traverser le désert, nous resterons 1 mois à chaque endroit, on fera des étapes avec 1 mois d'arrêt, 8 jours de voyage, 1 mois d'arrêt. Non, pas du tout. L'Éternel décidait. Personne dans Israël ne savait quand la nuée allait se lever. Dieu n'avait pas dit à l'avance comment serait le chemin. Un matin, on se réveille. L'Israélite, dans la conscience de ce que l'Éternel attend de lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la nuée. Il sortait de sa tente, il regardait la nuée. Elle est sur le tabernacle. On ne bouge pas. Dans la matinée, dans la journée, toujours de nouveau, un regard vers la nuée. Elle est toujours sur le tabernacle. La nuée se lève, mais tout de suite, chacun sait ce qu'il a à faire. Prévenir autour de lui, ranger ses affaires, démonter le campement, se mettre en route selon l'ordre prescrit pour la prochaine étape. Alors là aussi, veillez. Et on peut imaginer la lassitude. Le campement s'est déplacé 3 jours de suite, puis il reste. Tout le monde est un peu fatigué. pourvu qu'on reste plus que 2 jours ici. Et puis on reste 3 semaines, et puis on s'installe. Et puis brusquement la nuit se lève, et là on réalise qu'on s'était installé. Au commandement d'Éternel, il campait. Au commandement d'Éternel, il partait. Cette phrase est reprise à travers le paragraphe, à plusieurs reprises. Si on revient à notre passage de Marc. Quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance. Pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Plus loin, verset 35. Vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit ou au chant du coq ou au matin. Gardons-nous de faire des pronostics. Nous attendons ce retour, nous espérons ce retour du Seigneur. Mais nous ne savons pas le jour et l'heure. Et nous avons besoin, profondément besoin, de cette conscience que sans le soutien du Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables de veiller. Si on tourne la page, chapitre 14, verset 32, ils viennent dans un lieu dont le nom était Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. Il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commence à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. Et s'en allant un peu plus avant, il se jeta contre terre et il priait. Que si c'était possible, leur passât loin de lui. Je saute un peu plus loin, verset 37, et il vient et les trouve dormants. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla de nouveau et pria, disant les mêmes paroles, et s'en étant retourné, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient que répondre. Dans cette heure-là, les disciples ne pouvons pas les accuser de quoi que ce soit. Ils ont montré ce que nous sommes. Ce que nous sommes, chacun, tous. Alors voilà, que le Seigneur nous aide. Prenez garde, veillez, priez.